On a nos deux invités déjà au téléphone. Professeur Yannick Noiseux, qui est professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal et chercheur principal pour le groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale, JIREPS. Et puis Serge Petitclerc, qui est coordonnateur et porte-parole pour le collectif Québec sans pauvreté. Bonjour à vous deux, cher monsieur.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour de Québec.
Oh là, bonjour de Québec, monsieur Petitclerc. Alors, merci d'avoir eu le temps d'être avec nous en studio, même si ça se passe au téléphone. C'est comme si on était ensemble ici en studio. Et on va parler un peu du beau travail, du grand travail que vous faites pour les gens en situation de pauvreté. On va commencer par le chercheur principal, Yannick Noiseux, bien sûr, qui va nous présenter d'abord le JIREPS.
Ouais, merci d'abord de prendre le temps de nous donner un peu de temps de parole pour parler de cette recherche-là.
Vous faites un travail admirable. Là, on a besoin de le savoir, de faire découvrir par les auditeurs.
Ouais, c'est quand même pas toujours facile de passer le message dans les médias, donc je vous remercie beaucoup. Peut-être juste vous dire quelques mots sur le JIREPS, comme vous l'avez dit, donc c'est un nom à n'en plus finir, mais grosso modo, on fait de la recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale. On est un groupe de plusieurs chercheurs d'universitaires, donc il y a des gens de l'Université de Montréal, vous l'avez dit, mais de l'UQAM, de l'Université du Québec en Ottawa, de McGill, de l'Université Laval, des gens à l'UQTR à Trois-Rivières aussi. Donc, je voudrais aussi dire que cette recherche-là, je vais me faire le porte-parole aujourd'hui, c'est une recherche qui a été faite en collaboration avec, on est plusieurs chercheurs sur le dossier, donc il y a Marie-Pierre Boucher, Diane Gagné, il y a Marie-Josée Dupuis aussi, du collectif pour un Québec sans pauvreté comme Serge, et Anthony Desbiens. Donc voilà, on fait de la recherche là-dessus, sur la question du travail, de la pauvreté, des politiques publiques, sur l'aide sociale, sur la question du chômage, par exemple, les systèmes de protection, là, comme la CIU dont on a parlé tout l'été.
Oui.
Donc on fait ça, puis on fait ça généralement sur le mode partenarial, donc avec des partenaires, des organismes partenaires dans les milieux de pratique.
Oui.
Notamment dans le cadre de cette recherche-ci, c'était avec le collectif pour un Québec sans pauvreté. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'être avec Serge pour présenter les principaux résultats aujourd'hui.
Oui, j'adore ça. Serge, monsieur Petitclerc, allô?
Oui,
est-ce qu'il est là? Le monsieur de Québec?
Oui.
Alors, présentez-nous un peu le collectif pour un Québec sans pauvreté qu'on vient de le faire, monsieur Noiseux, concernant le groupe de recherche interuniversitaire.
Oui, en direct dans mon salon. Écoutez, le collectif, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est une organisation qui existe depuis à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans, qui regroupe, c'est une coalition qui regroupe, dans le fond, toutes sortes d'organisations nationales et des collectifs régionaux. Dans le fond, des gens qui travaillent, comme le nom l'indique, pour un Québec sans pauvreté, des gens épris de justice sociale, d'égalité, de lutte aux préjugés, des organisations qui veulent faire des pressions politiques sur le gouvernement pour améliorer les politiques publiques en faveur des personnes en situation de pauvreté. Dans le fond, qu'on privilégie l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres sur l'amélioration des conditions de vie des plus riches.
Oui.
Et le faire avec les personnes qui la vivent, justement, la pauvreté. De là, l'intérêt d'une recherche comme celle qu'on a fait avec le JIREPS, où on était voir les personnes pour voir qu'est-ce qu'ils pensaient de la situation pour essayer de combattre cette espèce de vision un peu folle où on considère que les personnes assez sociales sont confortables dans leur situation et qu'elles ne veulent pas retourner sur le marché du travail, ce qui est totalement faux.
Oui, on les accuse de paresseux, on les traite de tous les noms d'ailleurs. Allez-y.
Oui, et effectivement, c'est ce qu'on a trouvé le plus intéressant de travailler avec les amis du JIREPS, c'est de faire en sorte que nous, on porte un discours depuis longtemps, je dis nous, un nous très inclusif avec toutes sortes d'organisations locales, régionales, nationales, qui travaillent avec les personnes assez sociales, où on a toujours dit depuis des années que ce n'est pas tant que les gens ne veulent pas retourner sur le marché du travail, qu'il y a des obstacles à retourner sur le marché du travail, et un des principaux obstacles, c'est justement le programme, la loi d'aide sociale qui pose plein d'embûches.
Oui.
Et on ne tient pas compte de la réalité des personnes assez sociales et de leur empêchement à retourner ce marché.
Oui, et là, je me retourne à M. Noiseux. M. Noiseux, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un résumé succinct quand même du rapport? J'ai vu le rapport, c'est un rapport de 84 pages, si je ne me trompe pas.
Pas les 84 pages, hein?
Inquiétez-vous pas, je ne fais pas la lecture.
Non, je ne vous demande pas. Un résumé. Pourquoi les personnes assistées sociales ne trouvent pas d'emploi?
Voilà. Mais par rapport à ça, je pense que c'est important de placer quand même un certain nombre de défaire un certain nombre de mythes. D'abord, là, la première chose que je voudrais dire, c'est que au Québec, en 2019, quand on a fait la recherche, il y avait 100 000 personnes au Québec qui étaient dites sans contrainte au travail, donc qui sont considérées par le programme de l'aide sociale comme étant capables de travailler. Donc première chose, hein,
100 000.
Ce chiffre-là n'a jamais été aussi bas. Hein, okay. Il n'y a jamais aussi eu peu de monde. Donc, 100 000, c'est beaucoup, mais dans l'histoire, si on regarde l'évolution, ça n'a jamais été aussi bas. Donc, ce n'est pas un problème majeur, là, si on veut, dans la mesure où, donc ce chiffre-là, il est en diminution. C'est comme le disait Serge, hein, c'est aussi une catégorie qui est la plus stigmatisée de la population. Les gens considèrent qu'ils sont paresseux, vous l'avez dit, etc. Et puis voilà, donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc, la première chose, c'est que d'abord, le nombre n'est pas si élevé, historiquement, il n'est pas élevé. Oui. Et puis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé, comme le disait Serge, 44 personnes dans 8 régions du Québec.
Oui.
Une des réalités qu'on observe, hein, c'est que la plupart des personnes à l'aide sociale considérées aptes au travail sont des personnes qui vivent seules. Donc c'est une difficulté supplémentaire qu'ils ont par rapport notamment aux questions financières.
Oui.
Puis on leur a demandé de s'exprimer, hein, sur la vision qu'ils ont du travail, de leur expérience à l'aide sociale, des programmes d'insertion, hein, parce que vous savez, de plus en plus, de ce qu'on appelle le workfare, on demande aux gens à l'aide sociale de s'embarquer dans toutes sortes de programmes d'activation qui peuvent avoir leur avantage, mais qui parfois viennent avec leur lot là, de problèmes. Et La première chose que je voudrais dire par rapport à la question qu'on se pose de pourquoi ils ne travaillent pas, d'abord, hein, la très grande majorité veulent et souhaitent travailler. Hein. La plupart ont travaillé, souvent ils ont travaillé beaucoup. On a fait 44 entretiens, puis quand on a fini à lister le nombre de métiers ou d'emplois qui ont été faits par les gens, on en avait 300, pour vous donner une idée.
Ah ouais?
Donc, les gens ont travaillé. Et puis, de façon générale, c'est peut-être pas... Comment je pourrais dire, c'est peut-être un truc qui peut nous avoir surpris un peu, mais quand on leur demande de nous dire ce qu'ils pensent du travail, en gros, là, ils ont les mêmes idées, les mêmes valeurs que la population en général, en ce qui concerne le travail salarié.
Oui.
Donc, qu'est-ce que les gens, ils veulent? Pour eux, le travail, c'est quelque chose qui est important pour s'intégrer à la vie sociale. Mm-hmm. Ils cherchent un emploi dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir, se sentir utile. Ça, c'est des choses que tout le monde veut.
Oui.
Et aussi, ce qui est intéressant, peut-être particulièrement, c'est qu'ils ont une définition large du travail. Donc, pour eux, hein, que ce soit du travail rémunéré ou que ce soit du bénévolat ou du travail de proche aidant, on assimile ces expériences-là à du travail. Donc, ce que je dirais aussi par rapport à l'aide sociale, c'est que l'aide sociale est tellement stigmatisante, est tellement associée à des conditions difficiles que ça contribue même à valoriser encore davantage le travail salarié. Donc, pour eux, il y en a plusieurs qui nous disaient, le travail, qu'est-ce que c'est? C'est la liberté, ça nous permet d'être des citoyens, etc. Bon, c'est vrai pour tout le monde, mais on entend, si vous parlez à vos amis, vos collègues, je ne sais pas si il y a beaucoup de gens qui vont dire que le travail, c'est la liberté. Hein? Bon,
oui.
On a tous nos petites critiques par rapport au travail. On travaille trop, c'est fatigant, etc. Mais ce discours-là du travail qui égale la liberté, il est encore plus fort chez les personnes à l'aide sociale. Donc ça, je trouvais que c'était important là, de mentionner ça, là, que d'abord, là, ils veulent et ils souhaitent travailler. Puis ils ont un rapport au travail qui est pas mal semblable au reste de la population.
Ouais.
Cela étant dit, il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi ils ne travaillent pas. Ben, d'abord, hein, un des constats qu'on fait, c'est que les employeurs n'en veulent pas. Hein. Souvent, les employeurs sont pas très enclins à s'adapter à la réalité. Certains ont des problèmes de santé ou doivent pouvoir concilier travail et famille, ont des casiers judiciaires. Puis c'est souvent des choses qui font en sorte qu'on ne les choisit pas. Ils ont de la difficulté à obtenir un emploi. Et donc, être assisté social, hein, ça vient, c'est une espèce de condition sociale qui est vite repérée par les employeurs. Donc, ils voient les trous dans le CV, comment ça se fait de ne pas travailler pendant 2, 3, 4 ans. Et puis, on les employeurs identifient, parce qu'on nous dit, les personnes assistées sociales nous disent que rapidement, hein, les employeurs se rendent bien compte. On ne peut pas cacher à l'employeur qu'on est des personnes à l'aide sociale.
Oui, on ne peut pas cacher, voilà. Tous les dossiers sont accessibles.
C'est ça, puis même dans le CV, on le voit, là, bon, oui. Pourquoi vous n'avez pas su? Donc, et dès quand on est repéré comme une personne à assistée sociale, bien, souvent, la prochaine étape, c'est on se fait pas offrir d'emploi. Oui. Ça, c'est un truc important, puis je vais laisser parler Serge, mais là, un autre élément...
J'aurais quelque chose à vous demander avant, pendant ce que vous étiez en train de dire, si je peux me permettre. C'est quand vous dites de chercher du travail avec les employeurs, donc les employeurs, ils sont sensibilisés au fait du handicap, au fait des gens qui viennent de pays différents, mais j'ai jamais vu de sensibilisation faite, ou en tout cas je la connais pas, pour les gens qui sortent de prison. Ça doit particulièrement dur dans ce cadre-là aussi.
Ben c'est revenu assez souvent dans les entretiens qu'on attend. Oui. Donc les gens ont dit, puis même des fois ils me disaient, bon voilà, regardez-moi la face, j'ai eu une vie difficile, je sors de prison tout de suite, on me prend pas. Hein, c'est rapide comme ça. Puis pour les personnes, parce que peut-être mentionner qu'on a fait un panel spécialement avec des gens issus d'immigration, puis force est de constater que pour eux, hein, les embûches, quand on est à l'aide sociale pour trouver du travail, sont un peu différentes du reste de la population. Donc, il y a toute la question du manque de reconnaissance du diplôme. On connaît ça. Oui. Mais c'est aussi, hein, c'est pas juste les diplômes, là. C'est pas juste il y a toujours l'exemple, là, du médecin ou de l'ingénieur, donc, qu'on n'a pas reconnu son diplôme. Mais c'est aussi l'expérience de travail antérieur. Donc, je sais pas, moi, quelqu'un qui a travaillé dans une cuisine, pendant des années, que ce soit, je sais pas moi, en Haïti ou au Bangladesh, par exemple, mais quand ils arrivent ici, ben ils ont de la difficulté à faire valoir qu'ils sont qualifiés, qu'ils ont de l'expérience, et puis qu'ils pourraient faire
du travail. Oui, ça, c'est sûr.
Donc, il y a ça. Oui. Voilà. Si vous me permettez juste un autre truc, c'est la question du temps partiel.
Oui. Avant que je laisse Serge compléter ce que vous venez de dire, là, d'ailleurs.
Oui. Ah oui, allez-y. Serge, peut-être tu vas en rajouter sur ce que
voilà. Serge?
Oui,
la parole est à vous.
Oui, ben en fait, toute la recherche a été basée sur un constat général où dans les groupes comme le collectif, les groupes de défense de droits, en tout cas tous les groupes qui travaillent avec des personnes à aspect social, on est confronté à tous les jours, à toutes les semaines, sur n'importe quelle discussion, revendication. On est confronté à cette espèce de grand préjugé comme quoi les personnes qui sont à l'aide sociale ne veulent pas retourner sur le marché du travail. Et surtout que, dans le fond, si ces personnes-là sont en situation de pauvreté, c'est un choix. Ce sont des gens qui veulent profiter. Vous en avez parlé au début de l'émission. Et nous, ce qu'on a voulu faire avec les amis du GIREF, c'était d'essayer de revisiter ce discours-là, d'aller voir les gens, puis d'essayer de comprendre, de se faire valider, dans le fond, des choses peut-être qu'on savait déjà un peu, comme quoi c'est juste faux de considérer que les personnes ne veulent pas retourner sur le marché du travail, s'insérer à la société, participer à l'effort collectif de construire un Québec plus beau, disons-le comme ça. Quand on entend certaines radios à Québec, par exemple, qui n'arrêtent pas de marteler que les gens, dans le fond, ils ont juste à accepter une job, ils ont juste à aller travailler au Tim Hortons, pas besoin d'un secondaire 5 pour aller travailler à Tim Hortons, c'est pas vrai. Je veux dire, quand tu vas dans des bureaux, pas des bureaux, mais dans des Tim Hortons, c'est écrit sur la porte, offre d'emploi, secondaire 5 minimum. On considère pas que la majorité des personnes à cité sociale ont pas nécessairement des diplômes, ont pas nécessairement une formation adéquate pour être même considérées comme pour pouvoir aller déposer un CV dans un statut d'emploi.
Oui.
On considère pas que justement le fait d'être en situation de pauvreté fait en sorte que déposer des CV, ça veut dire avoir accès à Internet, peut-être envoyer des lettres, acheter du linge. Tu sais, dans le fond, on considère pas ça. Puis il y a une espèce de grand préjugé comme quoi les personnes, justement, ne veulent pas s'installer, pas retourner.
Serge, quel a été l'impact de la pandémie sur l'emploi des personnes assistées sociales, d'ailleurs? L'impact de la pandémie, encore?
Ben, c'était beaucoup, plutôt dramatique pour beaucoup de personnes, parce que souvent, on considère que les personnes se contentent de recevoir une prestation et ne veulent pas participer. Mais il y a beaucoup de personnes assistées sociales qui s'impliquent dans des organismes communautaires ou qui ont des petits revenus d'appoint, que ce soit des revenus de travail salariés, des revenus de travailleurs autonomes ou autres. Et ces personnes-là, tout d'un coup, comme l'économie a fermé, eu un shutdown en bon français, ben ces gens-là ont perdu un accès à certains revenus de travail ou de revenus d'appoint. Et donc, ces personnes-là se retrouvaient avec une situation pire qu'avant. Des gens qui n'ont pas nécessairement eu accès à la prestation canadienne d'urgence pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas assez accumulé d'heures de travail, assez de revenus l'année précédente. Donc, ces gens-là se sont retrouvés d'un côté avec des revenus qu'ils ont perdus et des dépenses supplémentaires. Parce que c'est pas parce que tu es en situation de pauvreté que tu n'es pas obligé d'acheter un masque, que tu n'es pas obligé, des fois, de faire livrer des commandes.
On doit tous suivre les consignes sanitaires, oui.
Ben, ils ont dû suivre les mêmes consignes qui occasionnent des frais. Donc, perte de revenus, frais supplémentaires, pas d'aide d'urgence du gouvernement pour ces personnes-là. Les gens se sont retrouvés dans des situations assez épouvantables.
Oui.
Et encore aujourd'hui, parce que des fois, on a l'impression que, bon, il y a eu une pause cet été, mais les personnes assistées sociales, ils n'ont pas eu de pause cet été, ils n'ont pas de pause actuellement, ils n'auront pas de pause dans les deux prochains mois. Donc, ces personnes-là ont besoin d'avoir une aide. Et effectivement, ce que démontre la recherche du GIREPS, c'est que ces personnes-là, c'est pas qu'ils veulent pas s'intégrer, c'est parce qu'on veut pas les accepter aussi.
Alors, je prends la balle au bon. Quelles sont les prochaines étapes suite aux résultats de cette recherche? Et puis, qu'est-ce qui vous apparaît prioritaire comme changement à apporter? C'est à vous deux. Hein.
Mais je vais me permettre de rajouter un truc, puis ça me permettra de vous répondre peut-être à votre question aussi. Serge évoquait là, justement des gens qui ont parfois à l'aide sociale, ironiquement, là, les gens qui sont à l'aide sociale, on pourrait dire, je sais que ça va être un peu polémique, sont les plus taxés de notre société.
Là, comment ça, ils ne touchent pas plus que...
Oui, c'est ça, comment ça. Hein? Quand on est à l'aide sociale, enfin, la façon que ça fonctionne, c'est que vous avez le droit de travailler quand même, jusqu'à 200 $ par mois.
Oui.
Donc, si vous travaillez 200 $ par mois, on vous laisse le garder. Mais si vous faites 201 $, le dollar supplémentaire, on vous le prend.
OK.
202 $, on prend 2 $. Donc, pour chaque dollar qu'on fait au-delà de 200 $, on est taxé à 100 % OK? Bon, là, je ne vais pas me perdre des considérations fiscales.
Oui.
Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un marché du travail au Québec, et c'est vrai partout dans le monde, de plus en plus, qui est fondé sur l'emploi à temps partiel. Hein, les gens n'arrivent pas à avoir des emplois à temps plein. Les emplois qui sont disponibles, souvent, sont à temps partiel. Et donc, par exemple, vous travaillez chez Walmart, une semaine, on vous donne 10 heures semaine.
Oui.
Là, c'est le temps des fêtes, on vous demande 40 heures. Puis arrive le mois de janvier, ça va être 15 heures semaine.
Okay.
Mais à 15 heures semaine, au salaire minimum, on n'arrive pas. On est même en dessous de l'aide sociale.
Oh, wow.
Et donc, le problème avec lequel on se retrouve, puis ça, c'était évoqué par beaucoup de travailleurs.
Oui.
Moi, j'aimerais bien travailler. Mais ma santé est fragile, j'ai des enfants, etc. Idéalement, je pourrais travailler 20 heures semaine, 20-25 heures. Mais là, on ne peut pas.
On peut pas.
Si
oui.
ces gens-là travaillent 20 heures, ils perdent l'aide sociale.
Ils perdent la situation. Puis,
ils se retrouvent à gagner moins.
Voilà.
Donc, on les empêche de travailler à temps partiel dans une certaine mesure. Donc, ça, c'est un problème. Pour moi, ça, c'est un problème qu'il faut régler.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont là, qui veulent travailler, qui pourraient travailler à temps partiel. Puis en plus, c'est ça que les employeurs ils veulent. Le marché veut ça.
Oui.
Puis on les enferme parce qu'ils ont le choix. Soit ils prennent la chance, ils vont travailler chez Walmart, puis pendant trois semaines, ils ont 28 heures, 30 heures, 35 heures, ça marche. Puis après ça, ils tombent à 6 heures, puis là, ils se retrouvent, je vais vous dire, carrément, là, ils se retrouvent dans des situations impossibles.
OK,
OK. Donc là, ils restent à l'aide sociale. Donc, ils sont un peu emprisonnés dans l'aide sociale.
Oui. Il nous reste une minute et demie, disons, rapidement, pour les prochaines étapes suite aux résultats de cette recherche, pour que je puisse vous remercier.
Oui. Je laisserai Serge répondre, oui.
Ben, je vous dirais rapidement qu'on subit encore aujourd'hui les réformes, les coupes qu'on a subies dans les années 80, 90, que ce soit à l'aide sociale, à l'assurance chômage, dans les services publics d'aide à l'emploi. Et il faut remettre en question l'ensemble de ces politiques-là. Et c'est justement ce qu'a révélé la COVID-19, la pandémie, c'est les trous dans le filet de sécurité sociale. Il faut remettre tout ça en question, passer de penser à quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont être protégés. Si on se retrouve avec d'autres pandémies, si on se retrouve avec d'autres vagues de pandémie, pour faire en sorte que les gens puissent avoir un filet de sécurité sociale adéquat pour protéger leurs revenus, et ça, c'est essentiel. On doit le faire. On aurait dû le faire voilà, longtemps, mais la crise révèle qu'on doit le faire et que ça devient urgent de plus en plus.
Ça devient urgent. Merci beaucoup à vous
donc,
deux.
Donc ça, c'est une des suites de la recherche.
Oui. Ouais,
merci beaucoup.
Juste, oui.
Merci. Seconde. Tu sais, dans le temps de la COVID, là, quand le premier ministre Trudeau a mis sa PCU, hein, c'était 2000 par mois. Et on a dit 2000 par mois, c'est le minimum. Les gens à l'aide sociale, on leur donne 690. Trois fois moins.
Wow.
Comment voulez-vous qu'ils arrivent?
Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup
merci
à vous
beaucoup,
deux. Yannick Noiseux, chef chercheur principal pour le groupe de recherche interuniversitaire, bien sûr. Et Serge Petitclerc, coordonnateur et porte-parole du collectif Point Québec sans pauvreté. Je vous dis merci pour le bon et gros travail que vous faites, l'intérêt que vous avez pour les personnes assistées sociales.
À bientôt.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Bonne
au revoir. Soirée.